Vous écoutez
RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after jusqu'à minuit, l'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans foot, uniquement sur RMC, à la radio, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis, salut Gilbert, et immédiatement petite correction à notre ami Arnaud Souk, que Michel Hidalgo n'est jamais né à Marseille.
Exactement, je lui ai dit juste pendant la pub, le pauvre.
Mais les auditeurs qui étaient déjà avec nous, il faut immédiatement rectifier. C'est obligatoire. Mais
il est dans le nord de la France.
Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles d'Arnaud en plus, donc je l'embrasse.
Pierre Ducron est là également. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et le retour de week-end de Jérôme Rantaine. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Oh Jérôme, je ne souvenais presque plus de ta voix. Qu'est-ce que tu deviens, mon vieux?
Tu sens que t'es oublié dans ce milieu.
Ah ouais.
On oublie vite dans ce milieu.
On oublie vite. Trois jours sans t'entendre, c'est dur quoi.
Bon,
ça va, avec Pierre, on est habitué. Nous, tu sais, dès que t'arrêtes, on t'oublie hein, dans le foot. Hein.
Oui, mais on revient aussi vite et encore mieux.
J'ai pas dit que je t'oubliais.
Encore plus fort.
J'ai presque dit que je te regrettais.
L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est la faillite. Bah oui, on parle de faillite possible des clubs de foot. Alors, nos clubs de Ligue 1 sont également concernés. Est-ce que c'est vraiment possible? On va en débattre dans quelques instants avec Pierre Rondeau et vous tous au 32-16. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. À 22h35, les nouvelles déclarations aujourd'hui de Karim Benzema. Alors, ça avait commencé hier soir, hein, ça a continué aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait mieux fait de se taire? On en débattra ensemble au 32-16 également. Et puis, à 23h, on va revenir sur un match qui s'est tenu il y a pile 10 ans. Le 30 mars 2010, Lyon recevait Bordeaux. Lyon-Bordeaux, vous allez me dire, ça n'a pas trop d'intérêt. Bah si, parce que c'était en quart de finale de Ligue des Champions, messieurs dames, quand même. Voilà, et c'était il y a 10 ans. Et évidemment, un truc qu'on n'a jamais revu depuis, hein, à ce stade, entre clubs français. Donc on se remémore.
Ni avant, d'ailleurs.
Exact.
Ah oh, ouais.
C'est vrai, t'as raison. Enfin, avant, on avait des clubs qui allaient même plus loin en Ligue des Champions, je te rappelle. Enfin bon.
C'est vrai.
Ouais, on n'en a pas eu des tonnes, donc c'était un sacré événement, il faut bien le dire.
Donc on y reviendra tout à l'heure. On avait programmé ce soir de parler nostalgie avec nos jeunes auditeurs de l'after, les moins de 30 ans. Vu l'actu du jour, entre l'actu économique et Karim Benzema, on a décalé ce sujet-là à demain. Donc on le fera bien demain. Donc les moins de 30 ans pourront prendre rendez-vous demain. Jeunes auditeurs de l'after, n'hésitez pas pour venir partager vos souvenirs d'enfance de foot qui, pour certains d'entre nous, seront des sourires qui ne seront pas du tout, des souvenirs qui ne seront pas du tout d'enfance, mais on les partagera avec vous quand même. Parce qu'on est sympa. Et puis parce que c'est important que les jeunes nous disent que les souvenirs, leurs souvenirs sont aussi bien que les nôtres. Eh oui. 32-16, hashtag RMC Live sur Twitter pour nous écrire.
C'est le seul privilège de la vieillesse, hein, c'est d'en avoir plus.
Certes.
Des souvenirs.
C'est vrai.
Sinon, si ça tenait qu'à ça, je préférerais encore avoir 30 ou 20 ans. Hein.
Et puis direct studio pour envoyer les messages sur les applis, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Bon, Jérôme, ça a été ton week-end, là, le confinement, ça va, t'as le moral?
Écoute, ça va, hein, c'est long, mais ça va.
T'es toujours pas sorti ?
C'est pas fini, mon vieux, c'est pas fini.
Non, je suis pas sorti, là. J'ai pas bougé.
Même pas pour aller faire un peu quelques courses. Rien.
Non, même pas. Non, on avait tout prévu, donc pour l'instant, on n'est pas en manque de ce côté-là, donc non, je suis resté là, dans le jardin. Ça va, il a fait beau, donc on peut profiter un peu du jardin.
Un peu frais, quand même.
Un peu frais.
Bon.
Ouais, il fait frais, mais bon, ça va. Au moins, il n'y a pas la pluie, il y a le soleil, et ça te redonne un petit peu le moral, même si il faut le garder, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui sont bien pires que moi et bien pires que nous, hein. Donc j'ai appris des mauvaises nouvelles quand même. J'ai un bon ami qui a perdu son papa et ça me fait chier quoi. Voilà.
Ouais. Pierre.
Sinon les amis, Pierre et Jérôme, virtuellement, j'ai passé le week-end quasi avec deux anciens coéquipiers à vous.
Hein. Ah.
Deux anciens autour d'une
comment
table.
Comment t'as
poker.
Fait pour passer le Ah oui, ben, oui d'accord.
Au poker. Ça c'est Bernard Mendy ça.
Ça c'est le premier et le deuxième. C'était votre prof de poker à tous. Jérôme, c'était ton prof. Enfin, lui, il dit que c'était ton prof de poker.
Oh non.
Mais... Ah, moi, mon époque,
Alonso.
Je ne jouais pas encore au poker.
Jérôme Alonso?
Oui.
Non, mais c'est prof de poker.
Alors, moi, j'allais au golf avec lui plutôt.
Ouais, ouais, je pense qu'il est meilleur au golf qu'au poker.
Eh ben, tu sais pas quoi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et hier, il a fait un gros tournoi. Et moi, je pensais qu'il était complètement cramé, free, hors du coup. Eh ben, il a gagné.
Non.
Bah, le problème, c'est qu'on ne saura jamais si c'était lui derrière. Quoi.
Ouais, d'accord. Là, enfin bon.
Là, vous en avez pour l'année, hein. Tu sais ça, Daniel, quand même.
Parce qu'attention,
là, pour l'année, quoi.
Des Jérôme Alonso, à mon avis, en France, vous allez avoir une bonne cinquantaine. Donc, tu peux te faire avoir aussi. Hein.
Ah non, non, mais ça, c'était le vrai. Attends, mais non, mais c'était obligatoire. On s'est parlé avant, après et tout. Non, c'était lui. C'est comme Bernard.
Il y a toujours le. Vous m'inquiétez un peu avec votre histoire de poker, là. Il y a quelques gars qui vont finir ruinés après le confinement.
Il n'y a pas que la Ligue 1 qui va faire faillite.
C'est ça. Ouais, il va y avoir des faillites. Hein.
Écoute, ça cartonne, hein, les tournois privés, les tournois privés sur le net sont en explosion. Et pour tout vous confier, il y a un tournoi en ce moment, RMC Poker Show, qui est fait, il y a énormément d'auditeurs de l'After qui sont en train de le faire. Donc vous pouvez les saluer, ils vous écoutent, hein, ça,
je vous dirai. Il y a un mec qui nous écrit, Julien nous dit, merci Daniel de m'avoir sorti avec ton 1-9 dépareillé, As-9 plutôt, alors que moi j'avais une paire de dames.
J'y peux rien.
Ça, c'est le risque.
Hein. j'ai pris un as. Hein. Voilà.
Il est content en plus. Non, mais, peu de écoute, respect pour les auditeurs. Tu pourrais te coucher. Bah,
je les ai respectés en jouant avec eux et je joue toujours avec eux. Il y a une super ambiance et c'est génial.
Bon, sinon, Pierre, toi, ton week-end, la cuisine, tout ça, ça se passe bien?
Tout va bien, ouais, impeccable. On fait plus trop la diff en fait entre le week-end et la semaine. C'est ça,
c'est vrai,
qui est terrible. Ouais. C'est que j'arrive plus à savoir si on est le week-end. Alors la seule chose, c'est mon fiston qui est avec moi du vendredi au lundi. Donc ça me permet de situer un petit peu où nous en sommes. Mais sinon c'est un peu pareil. Moi les coups de fil avec les clubs ou avec les joueurs, tu les fais tous les jours, week-end ou semaine. Donc finalement, puis comme il y a rien d'autre dans l'espace-temps qui te permet de te repérer, week-end ou semaine, c'est un peu pareil.
Messieurs, on va parler de la faillite éventuelle de nos clubs, parce que ça commence à inquiéter beaucoup de monde, cette histoire. Évidemment, sur fond de bras de fer avec les diffuseurs. Pierre Rondeau est avec nous, le spécialiste des questions économiques à RMC Sport. Pierre, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, il y a plusieurs infos à partager aujourd'hui, mais la première, Pierre, vient d'une étude donc publiée ces dernières heures et fait état. Je vais venir tout à l'heure parce que c'est pour parler de transfert. Donc, je te pose la question directement. Est-ce que des clubs français aujourd'hui sont réellement menacés de faillite?
Alors réellement menacé, c'est un bien grand mot. C'est sûr qu'il y a une très grande inquiétude dans la mesure où, on va l'expliquer, il y a beaucoup d'argent qui va venir à manquer pour les clubs. De là à parler de faillite, de relégation administrative, de disparition pure et simple, ça me semble extrêmement risqué. D'ores et déjà de le dire, les clubs restent des marques médiatiques et médiatisées, des marques à part entière. Si certain nombre d'équipes venaient à devoir appeler à l'aide en disant qu'on n'avait plus d'argent, il y aura toujours, j'ose espérer, des investisseurs pour venir les rassurer. Si je cite par exemple l'étude de ce matin de l'équipe, enfin, l'article de ce matin de l'équipe, qui met en avant un état d'inquiétude pour Marseille par exemple, et notamment Marseille, malgré tout, Marseille ne pourra jamais faire faillite, par exemple. Autrement, si on cite Bordeaux, si on cite Monaco, si on cite Saint-Étienne, si on cite tous ces clubs, ils ne pourront jamais faire faillite. Ils sont très inquiets, c'est une évidence, mais maintenant il faut travailler, trouver des solutions pour éviter que ce genre de situation arrive.
Attends Pierre, il faut néanmoins que tu nous expliques les choses précisément, parce que faillite, qu'est-ce que finalement ça veut dire précisément dans le cas de l'OM? On a une situation déjà financièrement un peu préoccupante.
Dans la foulée, c'est très préoccupant même.
Voilà, dans la foulée, tu as un actionnaire qui a plus beaucoup d'oseille. La situation perso de McCourt, il y a plus beaucoup d'oseille. Crise actuelle, il voit que le club lui rapporte pas grand-chose. Tu vas me dire, Marseille peut pas faire faillite. Ok, mais déjà que McCourt veut plus donner de blé. Et si McCourt dit, bon bah, je vais peut-être essayer de vendre. Tu vois, c'est une faillite, ok, c'est pas la disparition du club, on parle pas de ça, mais on parle de club où il y a plus un rond, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, justement, c'est toute la différence.
Si en gros, c'est ça qu'il faudrait préciser, quoi. Qu'est-ce qui peut être le pire? Et oui, ne parlons pas de disparition, ça disparaît pas comme ça, un club, mais
si tu prends un club comme Marseille aujourd'hui, avant le coronavirus, avant l'arrêt de la saison, d'après les comptes de la DNCG en 2019, présentait tout de même un déficit de 91 millions d'euros. Et le souci, c'est que c'est un déficit qui est cumulé avec d'autres déficits des années passées. La saison dernière, c'était 73 millions d'euros. Donc à l'heure actuelle, Marseille ne gagne pas d'argent et présente une masse salariale extrêmement importante. À cela, tu rajoutes le coronavirus, l'arrêt de la saison, la probable baisse des droits TV, puisque Canal, on va y revenir, Canal rechignerait à payer la fin de saison. Tu rajoutes à cela la baisse de la valeur des joueurs sur le marché des transferts. Tu rajoutes à cela les matchs à huis clos si la saison venait à être rejouée. Donc un manque gagné sur la billetterie. Tu rajoutes à ça la baisse des revenus de marketing et de sponsoring si les partenaires commerciaux venaient eux-mêmes à faire faillite ou à demander une renégociation des contrats. Au final, c'est une évidence que Marseille perdrait beaucoup d'argent. Il y aurait un risque à ce niveau-là. Ma courte, ce qu'il serait incité à faire s'il ne veut pas mettre l'argent qu'il n'aurait pas justement, c'est de vendre le club, mais le vendre au rabais. Donc le vendre à un investisseur qui lui-même ne pourrait pas derrière mettre la différence, mettre 100 millions d'euros puisqu'on parle de crise économique. Donc ce qui se passe, ce serait pas une faillite financière, mais ça serait une obligation de licencier des joueurs. Ce serait une obligation de réduire la voilure, de réduire le budget, donc réduire aussi le budget pour le sportif, pour le championnat, pour la Ligue des Champions l'année prochaine, s'il se qualifie en Europe.
Certitude, j'ai en fin de contrat.
Comment ?
Ça fera déjà une économie. Ouais. Certitude, j'ai en fin de contrat, ça fera déjà une économie.
Oui, oui, hein, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de faillite pour les clubs, il y a aussi une conséquence de faillite sportive et de baisse de performance sportive du fait de l'économie.
Alors Pierre, toi, dans tes discussions avec les clubs, est-ce que tu perçois une inquiétude qui grandit ?
Alors, ce qui est sûr et certain, et d'ailleurs, ils sont réunis
en fait,
avec...
je posais la question à Pierre Ducrot. Vas-y, réponds Pierre, l'autre Pierre répondra après, vas-y.
Ah oui, c'est vrai qu'on a... Il y a deux Pierres. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très inquiets. Et tout le monde est inquiet. Même les dirigeants des très grands clubs comme le PSG, comme Lyon, comme Monaco, tout le monde est inquiet pour le futur du football français.
Pierre Ducrot.
Surtout, j'ai presque envie de dire surtout les grands clubs et qui plus est ceux qui appartiennent à des hommes d'affaires qui sont ou des fonds d'investissement qui sont touchés non pas que dans le club de football par la crise sanitaire mais dans
ceux
toutes
qui
leurs
sont dans
activités
le trading, tout ça.
Annexes bah bien sûr ou même dans plein d'autres activités où je pense qu'ils ont très envie en premier de se soucier de leurs activités premières et après dans un second temps d'avoir envie de se pencher sur le club. Et pour l'instant, effectivement, dans ces clubs-là, je pense que le message, il est, on coupe les vannes, on ne sort plus d'argent et on attend de voir comment ça se passe. Et ça, à mon avis, ça va se passer beaucoup plus vite, cette anticipation et cette précaution, parce que moi, pour l'instant, je pense que c'est plus de la précaution de la part des clubs. Ça va se passer plus dans les clubs importants, importants par, j'ai envie de dire, par le budget, que dans les plus petits clubs, finalement, qui ont une gestion beaucoup plus saine au quotidien et pendant les saisons. Et qui peuvent faire face, eux, contrairement aux autres, alors en appliquant du chômage partiel aussi, en faisant attention, etc., mais qui peuvent faire face plus facilement à 2-3 mois de pénurie. Et alors tout ça, c'est suspendu aussi, ou c'est conditionné plutôt au fait que la compétition reprenne et que les droits télé soient quand même payés au moins en partie.
Avant de parler des droits télé, il y a quand même un truc étonnant. En Espagne, en Allemagne, en Italie, on prend des décisions. Par exemple, l'Espagne, la Fédération espagnole a débloqué 500 millions d'euros pour aider les clubs. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, si vous êtes en difficulté, on vous prêtera de l'argent que vous pourrez rembourser avec un remboursement échelonné, avec parfois sans doute des prêts à taux zéro.
Ce que tu veux dire, Gilbert, c'est que partout ça bouge, on
et
entend
France,
des choses,
non.
Et que chez nous on n'a rien décidé.
Bah voilà.
Ça. Alors écoute,
attends,
attendez.
Je peux aller au bout quand même. Effectivement, t'as en Espagne la Fédé par exemple qui prend ces décisions-là. En Allemagne, le monde du foot se mobilise avec la Fédé et la Ligue. En France, la Fédé, on les entend pas là-dessus.
Va,
attends.
Va plus loin, Gilbert. Les joueurs, les renoncements
voilà,
au salaire, tout
aujourd'hui,
ça.
Aujourd'hui, par exemple, c'est la dernière. Messi s'est exprimé aujourd'hui, donc c'est important d'expliquer ce qu'il dit. Donc les joueurs du Barça vont céder pendant la période de 100 matchs 70% de leur salaire. Tout ça pourquoi ? Pour garantir en fait 100% du salaire du personnel non sportif. D'ailleurs, le personnel qui est très important au Barça. Et Messi, parce qu'ils ont été attaqués, notamment par la presse locale catalane, les joueurs du Barça, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un accord. Et ils disaient vous, les privilégiés dans vos palais, vous voulez laisser crever les petits, quoi. En gros, c'est ce que disait la presse catalane. Et Messi dit on s'est fait allumer, mais on a mis du temps à trouver un accord, parce qu'on cherchait la meilleure formule, dit-il. Et il dit nous, on est les premiers à vouloir aider le club quand il le demande. Donc voilà ce que dit Messi. En Allemagne, on a de nombreux clubs où les joueurs ont dit on renonce à nos salaires. Et en France,
rien du tout.
Rien.
Bah, notre nullité va même jusque là.
Joueur ou institution.
Parce qu'en fait, tu n'as déjà dans les clubs personne. C'est ce que je répète et ça vaut pour le fonctionnement quotidien. Personne n'est jamais impliqué sur rien. On n'a pas d'histoire qui lie au club. Comme je dis toujours, le joueur, de toute façon, il est là de passage. Il est là pour se barrer. Il n'est pas là pour être impliqué dans un projet collectif. Donc, à la limite, il ne sait pas comment réagir. Parce que peut-être, alors je ne dis pas qu'individuellement, il n'y pense pas chez lui, bien sûr, mais il n'y a pas d'implication collective. Et de la même façon, comme nos clubs se sont toujours tirés dessus sans jamais vouloir collaborer, sans jamais vouloir avancer dans des projets collectifs, ça c'est l'histoire de notre football dans le passé récent qui est comme ça, et ben les mecs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Nous, tout ce qu'ils font, c'est se tirer dessus. C'est pas se mettre d'accord, alors, c'est
Daniel,
demander.
T'es dans le droit du travail, Daniel. Hein. T'es dans un pays où c'est encadré par le droit du travail.
Et les autres, non, les autres, ils n'ont rien. Les autres, ils n'ont pas de droit du travail.
Je vais finir ma phrase, je vais t'expliquer pourquoi. Dans les autres pays, puisque j'avais commencé comme ça, le droit du travail n'est pas pareil. Les 70% dont parle Gilbert à l'instant, notamment en Espagne, c'est une loi. C'est une loi qui a été modifiée, comme a été modifié le chômage partiel en partie ici en France, mais qui ne te permet pas de mettre des joueurs ou n'importe quel salarié
Je te parle du foot ensemble.
Non. Alors je vais finir, Daniel, tu me répondras après. Ce qui se passe là en Espagne et dont parle Gilbert à l'instant avec Messi, ça c'est appliqué, donc ça peut être appliqué par tous les clubs parce que c'est la loi. Tu as le droit de faire de descendre les salaires des joueurs ou de n'importe quel salarié dans n'importe quelle boîte.
Franchement, ta défense,
entre 10% et 70%. Non, c'est une loi. Tu ne pourras pas le faire.
Pierre,
je voudrais préciser juste pour répondre à Pierre. En France, tout de même, tu peux pour le motif économique. La loi t'autorise pour motif économique, mais il faut qu'il y ait l'aval des salariés. Mais en théorie, tu peux, comme en Espagne, en Allemagne, en Italie ou ailleurs, accepter une baisse du salaire pour motif économique. Donc, il faut que ça soit justifié. Donc, il faut montrer, et je pense qu'ils ont des arguments en tête, de montrer qu'il y a une grande difficulté économique pour faire passer la pilule aux joueurs et faire baisser les salaires. Il faut qu'il y ait l'aval des joueurs. Mais légalement, tu peux.
Alors, attendez, juste, je précise quand même.
Et il doit y avoir des discussions quand même.
Il y a des discussions justement avec ce sont des
espèces. Top. Merci. Je précise tout de même qu'il y a de nombreux joueurs qui font des dons personnels. Mais là, je ne parle pas de la même démarche.
Ce n'est pas la même démarche. Voilà. C'est encore de l'individuel, chacun dans son coin. C'est
aujourd'hui, par exemple, il y a une démarche collective cette fois. Il y a plusieurs joueurs antillais, notamment, dont Lemar.
Oui, c'est une très belle initiative. Voilà. Les mecs, ils viennent à leur région.
Magnifique. Donc, il y a des initiatives individuelles. Maintenant, entre, effectivement, Pierre Ducrot parle du droit du travail. Et Pierre a raison, il y a un encadrement. Maintenant, les joueurs, malgré cet encadrement, ils peuvent très bien dire de concert à tout le groupe, dire, bah, écoutez, voilà, nous, comme ça s'est fait en Allemagne, à l'Union de Berlin, par exemple, eh ben, on ne prendra pas nos salaires, on les laisse au club jusqu'à la fin du confinement. Je ne pense pas qu'on soit dans l'illégalité si demain un groupe de
faire
joueurs...
ça, non, mais on est d'accord, voilà. Gilbert, mais pour faire ça, là, vous me citez des exemples à l'étranger, d'accord, mais avant que, par exemple, à Union Berlin, là, comme tu dis, les joueurs décident de ça, c'est qu'il y a des discussions avec les dirigeants. C'est que les dirigeants, ils ont fait part aux joueurs qu'aujourd'hui, ça allait être très compliqué économiquement parlant, qu'il fallait essayer de trouver quelques issues pour essayer de s'en sortir au mieux, et que les joueurs, à partir de là, il y a une discussion, il y a des joueurs cadres qui sont mis en avant et qui vont prendre
Pourquoi il y a ça
en France, Daniel. Le problème, c'est que
donc ça va arriver, c'est ça, on va entendre des choses bientôt.
Mais c'est possible si Pierre Rondeau, ouais. Nous parle des problèmes économiques de certains clubs, là où c'est vraiment grave. Je pense qu'il y aura des discussions, en effet, avec les salariés. Et les plus gros salariés dans les clubs, c'est les joueurs. Donc, au d'un moment, je ne vois pas comment les joueurs pourraient se braquer.
Il faudrait aussi qu'il se passe quelque chose au niveau des dirigeants qui ne se sont jamais mis d'accord.
C'est plus ça le problème.
Depuis le début de la crise, ils n'ont fait que se tirer dans les pattes, les mecs.
Mais on a été joueurs. Non, mais Gilbert, on a été joueurs avec Pierre. dire alors après tous les joueurs ne sont pas comme Pierre, tous les joueurs ne sont pas comme moi, mais on a vécu, alors pas ce genre de crise sanitaire, n'importe qui ne l'avait pas vécu, mais des problèmes dans les clubs, on en a vécu, et au bout d'un moment, je peux te dire que le joueur, il reste humain. Dire on est ensemble, il y en a même qui sont peut-être un peu plus individualistes que d'autres, mais ils sont rattrapés par le groupe, et à partir de là il y a un truc en commun qui va se mettre en place, il y a pas de souci, et je vois pas pourquoi en France on n'y arriverait pas, sachant qu'à l'étranger dans certains clubs, je dis bien dans certains clubs, parce que c'est pas
tous les clubs. tout ce qu'on voit pour l'instant n'est pas génial, on est bien d'accord.
Ben pour l'instant, on voit pas grand-chose.
Pierre D, je te donne la parole juste après moi. Mais okay. à la décharge des joueurs, très franchement, arriver à un consensus à 25 joueurs pro, que les 25 lèvent la main en disant « Oui, je suis d'accord pour ne pas être payé », je pense que franchement, il y a du boulot à faire. Hein.
Mais Gilbert, c'est pas comme ça que ça se passe.
Pour
l'Espagne, par exemple, ça a été une réunion provoquée entre tous les capitaines de toutes les équipes et avec les institutions. Et ensuite, les capitaines ont rapporté aux équipes ce dont il s'agissait. Mais ça restera à la fin une acceptation individuelle, parce que tu ne peux pas faire quelque chose de collectif. Là, tu ne peux pas obliger un salarié à ça. Et ça restera du cas par cas. Et Daniel, pour te répondre, en France, il y a déjà eu du chômage partiel dans certains clubs d'appliquer. Ça a été fait très très tôt. Après, comme le dit Jérôme, t'as différentes étapes et t'auras peut-être des clubs qui viendront à vouloir faire autre chose et qu'en parleront aux joueurs ou qu'en parleront avec les institutions et ça se mettra peut-être en place. Mais dire que les joueurs en France n'ont pas envie
en France,
comme en Espagne ou en Allemagne, ils sont pas plus inhumains que là-bas ou plus radins ou moins solidaires. Alors, la solidarité pour moi aussi, elle doit débuter en haut de la pyramide.
Pour moi, on n'en parle pas assez.
C'est ça le problème.
Il y a une piste en France quand même, c'est Loïc Braillet là, qui a enquêté aujourd'hui là-dessus, c'est qu'il y a certains dirigeants qui vont sans doute proposer à leurs joueurs en fait des paiements différés de salaire. C'est-à-dire de dire, écoutez, très bien, on vous paye pas par exemple pendant 2-3 mois, en revanche, on s'engage à rattraper après. C'est-à-dire, imaginons les 100 000 euros qu'on vous a pas donné sur 4 mois à tel joueur, tu les toucheras peut-être entre septembre et décembre, quand la saison a repris et tout.
Ça, Gilbert, ça arrive, alors je te dis pas souvent, mais ça arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, que les clubs viennent voir l'ensemble du groupe, le président, les dirigeants, pour te dire, ou l'actionnaire, pour te dire, écoutez, là en ce moment, pour X raisons, on a des soucis, pendant 2-3 mois, vous n'allez pas être payé. Par contre, on rattrapera sur les mois qui suivent. Il n'y a pas de problème. Et là, encore une fois, si c'est ça, je ne vois pas comment le joueur ne pourrait pas accepter ça. Après, il y a une différence.
Vous êtes tous en train de dire qu'il va se passer des choses, mais que pour l'instant,
il ne se passe rien, on est d'accord.
Il ne se passe rien, mais vous êtes tous confiants qu'il va se passer. Donc je vais vous rejoindre dans votre confiance. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre sur quoi vous la basez. Mais je vais vous rejoindre parce que je crois en la bonne conscience des gens, donc je vais attendre vraiment qu'il se passe quelque chose en espérant que les clubs réussissent enfin à parler quoi.
Concrètement, Daniel, il s'est rien passé. Concrètement, il s'est rien encore passé en Espagne non plus.
À part au Barça, là.
C'est pas parce que Messi en parle que des choses ont été faites.
Non, mais c'est acté.
C'est signé, etc.
Moi, je veux bien qu'à longueur de dimanche, tu te battes comme tu peux pour défendre notre football. Mais parfois, il faut aussi un peu ouvrir les yeux, quand même.
Mais on parle pas de ça. Et c'est suffisamment grave et important comme sujet pour pas tomber dans nos petits débats.
Justement, c'est pour ça que je te dis que ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment, il se passe quelque chose de bien dans notre foot.
Mais c'est quoi quelque chose de bien, Daniel?
Ce que je vois aujourd'hui, c'est Nicolas qui peut pas se mettre à la table d'un autre président sans se taper dessus. Merde, les gars, c'est ça dont je vous parle.
Mais ça marche pas pareil ailleurs.
Tu crois que ça marche pas pareil ailleurs? Mais non, c'est ça que tu peux pas comprendre. C'est pas comme ça, Pierre. Ça fait 1000 ans que j'essaye de te le dire.
C'est que tu penses différemment, mais moi je comprends.
Mais non,
c'est exactement pareil ailleurs. Mais bien sûr.
Mais non, quand Tebas parle en Espagne, tout le monde est derrière lui, même les mecs du Barça et du Real qui sur le terrain se font la guerre. Ils se mettent derrière Tebas. En Angleterre, Scudamore pendant des années. Tu sais ce qu'il disait, Scudamore pendant des années en Angleterre. Tu sais quelle était la devise? La guerre sur le terrain, l'entente et la paix en dehors pour le business. Tout le temps, les Allemands, c'est pareil. Nous, ils peuvent pas se mettre à table. L'ensemble.
On est en 2020.
Et Daniel, en fait,
tu observes à quelque chose aujourd'hui ou soit témoin de quelque chose aujourd'hui. Je suis pas sûr.
Daniel,
au Real, en fait, ça.
D'accord. Donc nos dirigeants, ils s'entendent bien, Pierre. Tu vas me dire qu'ils s'entendent bien, nos dirigeants.
On va faire une pause, mais d'abord, Jérôme
Rondel. Tu es parfait.
Mais ouais, mais aujourd'hui.
Mais tu vois ce qui se passe là avec Canal qui ne veut pas payer, les présidents qui ne veulent pas. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression que vous êtes aveugle, les gars.
Laisse la parole à Jérôme Rondel, on parlera des droits télé après. Vas-y, Jérôme, c'est à toi.
Non, mais moi, je veux bien, là, mais comme disait Pierre, il a raison. Il s'est passé des choses à Barcelone, mais aujourd'hui, quid de, du Real, quid de, du Betis, de Séville, de Valence, même de, d'autres clubs à l'étranger. Chaque chose est, du moins, chaque cas est différent déjà. Et puis après, il y a la négo avec les clubs, parce qu'attends, on peut mettre en avant le fait que peut-être qu'il va y avoir des accords avec Lyon, avec les gros clubs français. Et je pense que pour les joueurs de ces clubs-là, c'est plus facile de dire on n'est pas payé ou on sera payé en décalé dans 3 ou 4 mois plutôt qu'à Amiens ou ces clubs-là où la masse salariale est bien moins importante et que même les joueurs, si tu leur dis vous n'allez pas être payé, ils vont peut-être être dans la merde tous les mois. Alors, tu vois, c'est ça la différence. Donc, c'est toujours pareil. Ils n'ont pas des salaires à 100 000 ou à 200 000 euros par mois.
Dans quelques instants, les gars, on va parler de la question des droits télé, du comportement de Canal, de beIN, avec Pierre Rondeau. Et ensuite, on passera à Benzema, bien sûr, qui a nouveau fait des déclarations aujourd'hui concernant Olivier Giroud. Il a voulu faire une mise au point suite à ce qu'il a dit hier soir. Mais la mise au point, en fait, c'est ce qu'il a dit hier soir. Peu ou prou. On écoutera ça ensemble. On se retrouve tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit, bien sûr. Le 32-16 est ouvert pour débattre.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Pierre Ducrozier en antenne, Daniel Riolo plus Pierre Rondeau pour notre sujet donc économique du soir concernant l'état des clubs français là après déjà 3 semaines sans match. C'est vrai qu'après 3 semaines sans match, on parle déjà de faillite. Ça montre quand même à la fragilité de nos clubs. Maintenant, Pierre, parlons des droits télé. Canal doit donc environ 110 millions encore. Et encore ce soir, Canal explique nous, on est notre bon droit, hein, ça fait partie du contrat, il n'y a pas de match, on ne paye pas. Donc voilà ce que dit Canal ce soir. Pierre, est-ce que tu as les infos à plus à apporter sur les diffuseurs aujourd'hui qui, donc finalement, sont centraux dans cette discussion parce que c'est leur argent que les clubs attendent.
Déjà, en termes de droit et en termes purement juridiques, Canal est dans son droit. Et Canal a le droit de refuser le versement de ces 110 millions d'euros dans la mesure où le service n'est pas rendu. Canal a payé pour la production de matchs de foot qui n'ont pas lieu, donc Canal suspend le versement. Là où la Ligue se défend, c'est que les 110 millions d'euros ne correspondent pas aux 27% de matchs manquants. On rappelle qu'il y a 73% des matchs qui ont été joués, il en manque 27%, et ça ne correspond pas à ces 27% et 110 millions d'euros. Canal, pour l'instant, n'a que payé 68% des matchs. Donc il y a encore 5 points de pourcentage qui ne sont pas payés par Canal à la Ligue. Et donc la Ligue demande réparation et sur ces 110 millions d'euros, il demande 43 millions d'euros qui sont dus. Le reste, c'est juste un versement qui n'est pas rétribué puisque la production de matchs n'a pas lieu. Canal a totalement le droit de suspendre, et je dis bien suspendre, le contrat et non pas l'annuler.
Voilà, et c'est le cas de beIN aussi.
Mais logique qu'il paye au moins ce qui a été diffusé, c'est-à-dire
oui, voilà, c'est
70% des matchs, un truc comme ça.
Il a fait un communiqué de presse hier.
La Ligue est dans son droit de demander que soit payé au moins ce qui doit être joué, ce qui a été joué quand même.
Canal pourrait avoir une stratégie différente. Canal pourrait dire attendez, nous si on paye pas, on affaiblit le produit qu'on a d'ores et déjà payé très cher en partie pour la saison d'après. Donc si c'est pour se retrouver la saison d'après avec des clubs tout pourris, avec des joueurs bof et puis un championnat nul, on a peut-être intérêt à payer pour sauver nos clubs.
Sauf qu'il y a la seule différence que Canal va continuer à diffuser du foot l'année prochaine, mais via des sous-licences rachetées à beIN Sport. C'est pas Canal qui directement paye la Ligue. Et ce qui est intéressant quand on voit justement cette relation assez houleuse entre Canal et la Ligue, c'est que Canal n'a pas obtenu un droit direct pour la diffusion la saison prochaine, mais passe par une sous-licence par l'intermédiaire de beIN Sport. Et donc là, cette saison, pendant le coronavirus, dit on arrête de payer. Mais ce qui est étonnant, c'est que concernant le top 14 et le rugby, Canal est aussi diffuseur et sera aussi diffuseur la saison prochaine, et Canal n'a pas suspendu le versement des droits.
Eh ouais. C'est du business, là. On le sent bien.
Non, mais c'est bien pour ça, une nouvelle fois, pour ceux qui n'ont pas tout compris, qu'il faut absolument que la saison se termine pour les clubs, que ce soit à huis clos, pas à huis clos. Je pense que les dirigeants aujourd'hui, ils s'en foutent, ils veulent
c'est ce qu'on dit depuis le début.
La thune des droits télé. Voilà,
c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est vital que ça se termine, et comme je le disais la dernière fois, peu importe comment, et s'il faut s'asseoir sur le public dans les stades, il en va de la survie de nos clubs. Et cette histoire de payer de ce qui a été joué nous ramène à l'éventuel débat qui avait été lancé par le boss de Lyon et qui commence mine de rien à être un petit peu repris, on commence à l'entendre même dans d'autres pays, de faire saison blanche. Bah, si on paye pour un championnat où il y a quand même eu 28 journées ou je ne sais combien dans les autres pays, et que on décide de tout effacer, que pour dire ben c'est comme si ça n'a pas existé, on se perd complètement. Il n'y a plus du tout de cohérence. Donc il faut faire mine de rien comme si ça a existé. Si ça doit s'arrêter, eh ben que Liverpool, tu vas aller dire à Liverpool, ben non, vous n'êtes pas champion. Comme on dit à nos deux clubs qui sont sur le podium aujourd'hui, vous allez perdre votre place. Non. Cette solution là, même si elle commence à être évoquée par certains, mais vraiment une infime minorité, elle ne pourra, enfin, ce sera pour moi une injustice absolue si c'est ça qui était retenu. Tout va ensemble, en fait. Les droits de télé sont payés pour les 28 matchs qui ont été joués. Ouais. Le classement vaudra pour les 28 matchs qui ont été joués. Et voilà. Et après, eh ben, que tout soit fait pour que ça se termine, parce qu'il en va de la survie de notre foot.
Pour
voilà.
conclure, les gars, donc, l'étude dont je parlais au début, je vous la ressors maintenant, elle concerne, en fait, la valeur des transferts. Et en fait, une étude qui a été menée par l'Observatoire du football, du Centre international d'études du sport de Neuchâtel, donc c'est le fameux CIES, hein, qui tous les ans sort des études très fouillées et donc qu'on peut prendre en considération, nous dit donc que la valeur des transferts va baisser de 28%. C'est-à-dire que, par exemple, certains clubs. Ils ont calculé que pour certains clubs, ça allait plus important que d'autres. Le PSG perdrait 302 millions, le Real 350, le Barça 366.
Risque d'être un peu moins agité cet été, du coup. Il risque d'avoir moins d'argent en balade.
C'est sûr, même.
Voilà. Et en France, donc, comme le disait tout à l'heure Pierre, c'est l'OM qui serait le plus impacté au niveau de la valeur des transferts joueurs, qui reculerait de 38% selon cette étude. Voilà. Donc, il se base sur la valeur des joueurs, hein, potentiel revente et tout. Voilà. Donc, c'est un peu à la louche, Pierre, mais enfin, c'est assez révélateur de la situation quand même.
C'est très inquiétant et ça va impacter tout le monde et surtout les clubs qui pratiquent le trading. C'est vrai que Marseille, on le rappelle, mais Marseille, avant la crise du coronavirus, ils avaient tout de même une enquête sur le dos du fair play financier. Ils avaient passé un accord de règlement avec l'obligation de trouver 60 millions d'euros avant le 30 juin 2020. À cela se rajoute la crise du coronavirus, la baisse de la valeur des joueurs sur le mercato. Ça va être très difficile pour eux.
Je conclurai sur le dossier en disant...
Si je peux me permettre, Gilbert, oui, je pense que ça touchera surtout les clubs qui seront dans l'obligation de vendre et qui ne pourront pas s'empêcher de passer un mercato, effectivement, comme le dit Daniel, un peu moins agité, un peu moins mouvementé que ce qu'ils auraient fait en temps normal. Ceux qui vont pouvoir passer ce mercato sans faire trop de mouvements et laisser passer un peu la crise seront beaucoup moins impactés. Et un club comme le PSG, par exemple, là, les chiffres sont importants dans l'étude qui a été faite parce qu'on se base sur la valeur des joueurs et s'ils partaient tous cet été ou en tout cas certains avec une forte valeur, combien on perdrait sur mais le PSG ne va pas vendre Mbappé et Neymar cet été, ouais. Ni Di Maria ni un autre.
Je peux me faire
et
donc, l'avocat du diable.
Ils seront pas autant impactés.
Je vais me faire l'avocat du diable. Et si une crise dans le foot permettait l'émergence de nouveautés, c'est-à-dire, je sais pas, moi, demain, si t'as des clubs en faillite, va falloir se réinventer, le club va renaître. Donc là, t'as les projets sportifs qui vont arriver. Là, tu vas avoir des compétences. Tu vois, tu vas des gens qui vont se révéler.
Après chaque grande
crise, il y a toujours une renaissance qui peut être positive aussi pour le football.
Justement, j'aimerais bien poser la question à Pierre Rondeau, savoir ce qu'il en pense. Autour de cette crise, il y a deux choses que j'ai entendues. Il y a les propos d'Infantino et Seferin, donc boss de la FIFA et de l'UEFA, qui vendent un peu l'idée qu'une sorte de monde meilleur pourrait naître derrière la crise. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est moins d'argent dans le foot? Est-ce que c'est des transferts moins extravagants? Comme si ça avait dérangé quelqu'un finalement au bout du compte qui en est et que tout le monde n'en avait pas profité. Je comprends pas bien cette espèce de bonne conscience qu'on est en train de s'acheter en tenant ce genre de propos. Ça c'est petit point 1. Et petit point 2, est-ce que cette crise-là, pour certains gros clubs, ça ne pourrait pas les pousser à aller plus loin, plus vite dans la fameuse idée de la Super League fermée, de dire bah maintenant qu'on est vraiment dans la merde, c'est peut-être le moyen de se rassembler très très vite pour essayer de le monter ce truc-là, parce que on va avoir dans nos championnats respectifs des clubs qui vont jamais se remettre de la situation qu'ils sont en train de traverser. Donc déjà qu'on a des championnats souvent à deux vitesses, là ils vont être à 1000 vitesses différentes. Donc accélérons les choses et essayons de faire ça. Il y a en gros deux visions qui s'opposeraient, une vision un petit peu plus bonne conscience et une autre un petit peu plus ultra-libérale.
Ouais,
je sais pas de quel côté on va basculer en fait.
Le truc c'est que opposes la vision A et la vision B, alors que pour moi, elles sont liées. Tu me cites Infantino qui dit, effectivement, qui dit qu'il souhaite un football meilleur dans l'avenir, mais moi, je cite son...
On ne sait pas ce que ça veut dire, hein.
Oui, mais je sais ce que ça veut dire. Il a fait une déclaration à la presse la semaine dernière et il tient un très beau discours sur plus de solidarité, plus d'union, plus de fraternité, soit. Et à la fin, il rajoute et que lorsque la crise sera arrêtée, nous pourrons réfléchir au nouveau format de compétition. C'est très clairement un appel du pied pour une Super Ligue européenne. Donc c'est pour ça que lui, quand il parle de solidarité, c'est une solidarité tournée entre les grands clubs, entre 20 clubs, 30 clubs, 40 clubs, mais pour une Super Ligue européenne avec une forme de régulation à l'américaine, un salary cap, une luxury tax, un plafonnement des droits TV, une redistribution égalitaire, mais uniquement entre les grands clubs, sans relégation, sur cette Super Ligue européenne. De toute façon, ils vont se dire très simplement, on a frôlé une faillite généralisée, on a frôlé une crise financière dans le football, et bien trouvons des solutions pour réguler les finances, et la meilleure solution pour réguler les finances, c'est le modèle américain. Et le modèle américain, c'est Ligue fermée, Super Ligue européenne, Super Ligue continentale, avec salary cap, avec luxury tax, avec tous ces modèles-là à l'américaine.
On va conclure avec Élie au 32-16, qui est supporter de Bordeaux et qui est acquis pour son club. Salut Élie.
J'aurais bien aimé avoir vos avis sur ce que vient de dire Pierre, moi, vous trois.
Mais moi, je vais parler un peu de ce qu'a dit Pierre. Je qu'on en parlait. Je parlais en fait des droits télé. Si Canal Plus ne payait pas, bon, c'est une hypothétique, mais ne payait pas les 110 millions d'euros restants de droits télé, pour moi, ce serait catastrophique pour les clubs de Ligue 1. Alors, je parle de Bordeaux parce que c'est le club que je suis un peu mieux et que dont je connais la situation le mieux, la situation économique. Pourquoi ? Parce que un club comme Bordeaux, déjà, c'est dirigé par un fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement prennent d'argent, on reprend l'argent des marchés financiers. King Street compte sur les droits télé pour rééquilibrer les comptes et le trading de joueurs. L'enquête du jour a montré que Bordeaux perdrait 28%, les joueurs de Bordeaux perdraient de 28% de leur valeur. Ce qui fait que si on n'a pas les droits télé et que les joueurs perdent de leur valeur, tout le système s'effondre. Déjà, Bordeaux est criblé de dettes, et je pense que c'est pas le seul club en Ligue 1, mais ça pourrait tuer le club. Donc il y a des rumeurs à Bordeaux, donc on parle même d'un dépôt de bilan de King Street, hein, King Street serait prêt à déposer le bilan parce qu'ils voient que les droits télé vont peut-être pas être payés et que finalement le foot, ça leur rapporte pas assez. Et vu le contexte de l'activité économique qu'il y a avec les marchés financiers qui commencent un peu à stagner, à s'effondrer un peu, à remonter, on voit que King Street peut-être serait prêt à lâcher Bordeaux, qui pour eux un petit actif. Donc ça c'est pour le problème par vis-à-vis de Bordeaux. Mais l'autre problème c'est surtout que tous les clubs n'ont aucune politique sportive, ils n'ont aucune entrée d'argent mis à part les droits télé. C'est-à-dire que si les droits télé sont amenés à baisser, demain je vois pas pourquoi Media Pro viendrait et dirait voilà, je vois que Canal Plus n'a pas payé ses droits, moi aussi je ne paierai pas assez parce que la valeur du joueur a baissé et que la situation n'est plus la même.
Non mais Media Pro doit payer ses droits à partir du moment où le championnat a lieu, ça c'est.
Bah,
c'est
il a pas payé, ils ont pas payé en Italie, hein. Ils
n'ont pas payé en Italie.
Oui, non, d'accord, mais toi tu parles d'autre chose. En Italie, c'est passé qu'il y avait un défaut de garantie, qu'ils n'ont pas pu aligner l'oseille. Là, pour le championnat qui doit démarrer, et ils doivent payer le premier versement quand ça démarrera.
Bon. Le seul souci, c'est que sur le contrat, c'est première journée en août. Si on décale la saison pour la terminer en juillet.
Ah, tu crois qu'ils peuvent arguer de ça pour modifier quelque chose ?
Si ça démarre
début septembre.
On peut imaginer qu'il
y a des mais à partir du moment où on sait que ça démarre réellement, Pierre.
Pardon, moi, j'ai quand même du mal à envisager que les diffuseurs dégradent eux-mêmes le produit dont ils ont fixé la valeur, en fait. C'est ça qui est assez terrible.
Non, mais parce qu'on demande aux clubs et aux joueurs, aux dirigeants de faire des efforts, mais alors eux, ils font rien, quoi, en fait. En gros, vous êtes en train de me dire que si le championnat commence au mois de septembre, octobre, ils sont dans leur droit de dire, nous, on donne pas la somme qu'on a mis en avant au départ.
Bah, vraisemblablement, oui, après, on n'est pas dans le détail des contrats.
Ça serait quand même incroyable. Ça serait quand même incroyable.
Pierre Rondeau, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à tout le monde.
Merci Pierre.
Bonne soirée.
Jérôme, le truc, c'est qu'eux, ils ont acheté un truc et que si ce truc, il vient pas, Toi, t'achètes une voiture oui. et t'achètes ta bagnole, oui. elle est jamais livrée. Qu'est-ce que tu fais? Tu payes quand même?
Eh ben, les joueurs, c'est pareil. Alors, dans ces cas-là, les joueurs, ils ont un contrat, Daniel. Et ben, ils ont un contrat.
Eux, ils sont à l'intérieur de la société. Si jamais ils ne font pas un effort, c'est eux-mêmes qui risquent d'en souffrir. Parce que si le club disparaît, ils pourront plus jamais être payés. Il vaut mieux être payé 70%, 50% que rien du tout. Si t'es en liquidation, Jérôme, c'est pas du tout la même chose. Là, le deal, il est avec un diffuseur qui est extérieur. Il est toi qui achètes une moto ou une voiture. Si elle est pas livrée,
je pense qu'il faut faire.
Après que leur attitude soit très extrémiste et la façon dont ils avancent ça maintenant, alors que la période est critique et qu'ils pourraient dire on attend, on regarde, évidemment, je suis obligé de te rejoindre. La façon abrupte, c'est marrant parce qu'il y a un mois, ils disent mais nous, on met toutes nos chaînes en clair, machin. S'ils passent un petit peu pour les généreux de l'affaire. D'ailleurs, si t'allais chercher un petit peu derrière, tu te rendais compte que tu comprends que TF1 et d'autres ont dit mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Nous aussi, on les a achetés ces films-là et on est censé les diffuser, machin. Si vous les diffusez en clair maintenant, ça va nous plomber toute notre économie et tous les gens qui bossent chez nous. Donc déjà, c'était un geste généreux, mais qui en fait faisait du mal à d'autres. Enfin bref, parenthèse. Hein. Tu passes pour le chevalier blanc en faisant ce truc-là, et puis là après, t'arrives derrière, tu dis nous on donne pas l'oseille, et puis on n'est même pas sûr de payer pour ce qu'on a vu et tout, et que la ligue est obligée de dire mais attendez, mais si vous avez vu, il y a eu 70% de joués, vous êtes quand même obligé de payer au minimum ça. Bref, là aussi, et j'en reviens au discours de base, Pierre, de ce que je te disais tout à l'heure. Notre football, il est quand même particulier. T'as quand même des gens qui n'ont jamais œuvré pour que ça fonctionne mieux entre les dirigeants qui sont chacun dans leur coin, le diffuseur qui pense à sa gueule. Je t'assure que c'est compliqué.
Les droits télé, c'est partout pareil.
Bon de la face pour Pierre Ducrot, vas-y Pierre.
Ok, c'est partout pareil, Pierre. Ok, c'est partout pareil. J'ai rien d'autre à dire. Si tu dis que c'est partout pareil, alors c'est partout pareil. T'as dit c'est partout pareil.
Je te dis les droits télé, Daniel. Les droits télé, c'est partout pareil. Ça fonctionne partout pareil. Et je ne pense pas me tromper en te disant qu'en Italie, il y a quasiment 25% des droits télé qui sont pas payés. Qu'en Bundesliga, c'est aussi.
Mais là, c'est carrément le mec qui a dit on paye pas, ou c'est la ligue a été obligée d'intervenir pour dire vous allez quand même payer ce que vous avez diffusé.
Mais bien sûr, parce que la ligue va pas se laisser faire. Et heureusement, moi je suis ça marche aussi pareil. Hein. Je suis persuadé que les choses ne sont pas aussi faciles entre les diffuseurs et les ligues de chaque pays. Hein.
Dans quelques instants, les gars, on passe au dossier suivant. Karim Benzema. Alors c'est pas du tout la même histoire. Hein. Là, on va sortir des chiffres et tout. On va revenir à notre fameux Benzema Giroud. Ça faisait longtemps. Et figurez-vous que le mec, il a parlé de Jérôme. Jérôme Rotel est apparu comme ça, pam, tout à coup, de la discussion avec Karim Benzema, incroyable. Évidemment, on vous fait partager tout ça dans quelques instants et on vous attend 32-16 pour débattre. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Pierre Ducrot est là, Jérôme Rotten est là. Tout à l'heure, on se remémorera le match d'il y a 10 ans pile, Lyon-Bordeaux, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Pour l'instant, on aborde le cas Benzema. Benzema, donc, qui a pris goût au chat Instagram, donc en direct. Alors, il appelle ses potes, ça dialogue foot, ça parle. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y en a eu un premier il y a une bonne semaine de ça, un deuxième hier soir, et une troisième petite intervention aujourd'hui. Ah, déjà, sur Suite, il y a une semaine, il y a un truc qui nous a totalement échappé. Il discute avec un de ses potes, là, le mec qui casse les télés à Marseille.
Momoeni.
Voilà, j'avais plus son nom en tête. Et là, il commence à se chambrer et Benzema lui dit toi, donne-moi ton 11, ton 11 tout pété, quoi. Tu vois, le 11 des mecs, voilà. Et là, Mohamed Elie ose, je dis bien, il ose donner le nom de Jérôme Rotten. Écoutez.
Bah, Jérôme Rotten, il était chaud un peu à un moment, non, lui? Il était chaud un peu.
Ouais, il avait sa patte gauche. Une belle patte gauche.
Heureusement.
Il avait une belle patte gauche.
Voilà, il avait une belle patte gauche.
C'est pas non plus le méga commentaire de l'année. Hein.
Voilà ce que je retiendrai de cette intervention. Donc, il t'a réalité, quoi. Hein. Tu vois
bah, il a raison, les yeux que je te dise. Écoute.
Très bien. Ça
m'a toujours un petit peu énervé cette expression patte gauche pour dire que le mec a un bon pied gauche. Je sais pas pourquoi patte gauche.
C'est vrai qu'on dit pas patte droite.
Je me demande si c'est pas une référence peut-être au vocabulaire de la boxe quand on disait tes fausses pattes ou.
La patte, non, c'est la
patte pour moi, c'est parce que c'est doux, quoi. C'est
léché, c'est beau, quoi.
Ouais, voilà.
Parce que les pattes pour Daniel, c'est autre chose. Vous le savez depuis hier.
Ah oui.
Voilà.
Hein, mais hier, j'ai même pas donné la moitié des explications correctes.
On a reçu 50 messages. Là, j'en ai encore un de Julien qui me dit, je suis content parce que je me rends compte que avant, je ne faisais pas des carbonara, mais des carbonariens.
Non, mais c'est même pas ça. Mais en fait, c'est même pas. En fait, c'est même pas.
Elle a donné sa recette hier.
Ah ouais, mais non, mais non, non, je te promets. Faut que tu podcastes.
Non, Jérôme, en fait, c'est même pas ça. Le problème, c'est avant de savoir comment tu vas aller faire les pâtes, il y a tellement de détails qui font la différence. Tu peux prendre les meilleures pâtes de la terre si t'as pas la casserole adéquate. Déjà, c'est foiré. Ouais. Si t'as pas la bonne taille, la bonne quantité d'eau pour qu'elle soit pas étouffée à l'intérieur. Donc déjà, ça hier, j'ai oublié de le dire. Si t'as pas le bon matériel, Déjà, ça compte déjà à la base. Donc après, ensuite.
Bon, perdons pas de temps à refaire l'after cuisine.
Ah non, on perd pas de temps, mon vieux, on perd pas de temps. D'ailleurs, il faut que je le dise, hein, je rêve d'être invité dans My Cuisine.
My Cuisine, chaîne du groupe chez nous.
Bah, c'est pour ça que je le dis. Ah hein. Oui. Franchement, j'adore.
Alors, hier soir, donc, Karim Benzema parle de Giroud. On a relayé tout ça dans l'after hier. Mais on ne va pas vous faire écouter ce qu'il a dit hier. Parce qu'aujourd'hui, suite, évidemment, tout ça a fait polémique, tout le monde réagit et tout. Mais aujourd'hui, Karim Benzema a voulu repréciser sa pensée. Mais en fait, en reprécisant sa pensée, il a redit globalement ce qu'il a dit hier. On écoute donc ce que disait aujourd'hui Karim Benzema sur Instagram.
Sur Olivier Giroud déjà, où j'ai dit la vérité tout simplement. On n'a pas retenu le fait où je parlais de lui et ce qu'il apportait en équipe de France. On a retenu juste quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui le karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça. Parce que maintenant, regarde, si tu me demandes avec R9, c'est la F1 et moi je suis le karting. C'est comme ça.
Voilà. Alors R9, c'est Ronaldo le Brésilien hein, qui est l'idole de Benzema. Mmh. Donc voilà, donc il reprécise ce qu'il a dit hier, mais en fait en disant la même chose. Donc qu'il considère vraiment que... Giroud et son karting de et lui ça et lui la Formule 1.
Voilà. Non, c'est pas son karting, c'est qui Giroud est un karting par
Benzema. Nous, on a dit ça depuis longtemps avec nos Lidl. On a toujours dit que par exemple toi t'étais le Lidl de Monterrubio par exemple.
Mais en fait, ouais. en fait, ça choque.
Nous on l'avait fait avec les supermarchés, Jérôme, hein, on avait fait nous.
Oui, c'est la même chose. Bah voilà, au lieu, alors c'est un peu plus hard là peut-être. Mais
et Pierre, il était le Lidl de qui? Ah. C'était qui ton idole à ton poste, Pierre? Ton numéro 6 que t'adorais?
Mon idole?
Enfin, le mec qui t'inspirait.
Quand tu parlais de supermarché, j'ai compris mon idole.
Non,
ça c'était autre. Mais le okay. gars qui à ton poste tu trouvais était vraiment.
J'ai été formé dans un club où ceux que. Quand j'étais en. Bon, à l'époque c'était pas U19, mais quand j'étais en U17 ou en l'année que j'ai fait en équipe réserve, j'avais Chavé au-dessus, Vincent Guérin, Paul Le Guen, Daniel Bravo qui jouaient.
Donc tu serais le Lidl de Vincent Guérin?
C'était mes idoles, ouais, effectivement. J'ai jamais eu d'idoles, mais c'était les joueurs que je prenais en exemple.
Non, je voulais dire que tu étais le Lidl de Vincent Guérin.
Ah, ouais. Lidl, faut demander à Vincent. Ça, faut demander à Vincent.
Vu la carrière, oui.
Chez Lidl.
Bon, alors, blague à part.
Ouais, c'est vrai, il y a des bonnes surprises.
Blague à part, Benzema aurait-il mieux fait de se taire parce qu'il réallume là une polémique qui en fait est sans fin. Donc, avec Giroud, Jérôme et Pierre d'abord et Daniel ensuite. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, écoute, moi, ça me choque pas du tout, parce que il a dit la vérité, tout simplement.
Je veux dire, il y a pas le fond. Oui, mais après, est-ce qu'il faut le dire? Tu vois, est-ce qu'il faut arriver?
Il faut arrêter avec le footeux qui a pas le droit de parler, et pas le droit de dire ce qu'il pense. Tu sais, à l'arrivée, Gilbert, tout le monde va se faire chier, quoi. Si, il faut pas que je dise ça sur lui parce que tu te rends compte alors que tout le monde le pense, tout le monde le sait que de toute façon il y a trois classes d'écart entre Giroud et c'est pas rabaisser Giroud. Giroud il fait une carrière, il le dit en plus Karim, il le dit dans l'interview, il dit que voilà, il a une carrière fantastique, il a gagné des titres et tout ça. Mais si tu me parles de qualité intrinsèque, la qualité individuelle entre Giroud et Benzema, il y a trois mondes d'écart, bien sûr que oui. Et donc ça choque qui en fait qu'ils le disent?
Moi je vais te dire, même s'il a raison sur le fond, et encore je pense qu'il y a quand même moins de différence entre lui et Giroud qu'entre un karting et une F1 à ce moment-là, si on veut s'amuser à faire des métaphores. Moi je pense que t'as une manière beaucoup plus intelligente et respectueuse de le dire, tout simplement. Moi je pense que la forme, n'est pas bonne. Et quand je dis n'est pas bonne, c'est qu'effectivement, ça peut choquer certains. Il a le droit de dire qu'il se trouve plus fort que Giroud. C'est son avis, comme tu dis. Il a le droit de le dire et encore heureux qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. Je pense que la forme est irrespectueuse et que aujourd'hui, on part du principe, dans notre monde actuel, que via les réseaux, que via des médias, qu'on a le droit de dire tout et n'importe quoi. Et moi, je suis pas d'accord. Dans la forme, t'as pas le droit de dire tout et n'importe quoi. Tu peux très bien donner ton avis. Il peut très bien donner son avis là-dessus en mettant les formes. Voilà, ça s'appelle juste de la bienveillance ou je sais pas, de la politesse même.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent en fait?
Non, qu'ils le disent. Pierre dit qu'ils le disent autrement, qu'ils le disent.
Ouais, qu'ils le disent autrement. T'as pas besoin de rabaisser.
Oui, j'estime que ma carrière me permet de penser que je suis meilleur supérieur. C'est ce que veut dire Pierre. Ça veut pas dire que c'est ce que je dis. J'ai pas encore répondu à la question. Je traduis la pensée de Pierre. Je pense que je te trahis pas, Pierre. C'est comme ça que tu voyais. Oh, truc,
c'est ça. Moi, c'est la forme, quoi. La forme qui est pour moi
à l'arrivée
n'est pas suffisamment respectueuse.
Et à l'arrivée, pour montrer que c'est pas que là-dessus sur le manque de respect ou pas, parce qu'après ça dépend comment on voit les choses. Il lui-même le dit. Bah écoutez, moi, si vous me comparez à Ronaldo le Brésilien, il se rabaisse alors dans ces cas-là. Donc il y a pas de problème.
Quoi,
et puis après le respect. Si. Non, mais le respect, Pierre. Excuse-moi. Après, je te laisse la parole. Mais le respect, je pense qu'il l'aurait eu peut-être un peu plus dans la façon de s'exprimer s'il y avait eu une vraie complicité entre Giroud et Benzema.
C'est pas
le cas. Alors je vais pas parler de ce que je sais pas, mais on sait très bien que de toute façon c'était pas une entente folle entre les deux. Donc bon, après, moi, il dit ça, il l'a pas insulté, au contraire. Je te dis, sur l'interview d'hier, il dit quand même qu'il a une carrière, du moins il a gagné des titres, et bravo à lui et tout ça. Il met ça en avant, il le rabaisse pas. Il dit pas que c'est un tocard
quand même. Ouais.
Ouais. Alors, ouais, Daniel, bon, ton point de vue à toi.
Bon. Écoute, moi, j'aime bien déjà comprendre un petit peu les contextes avant de donner un avis. La façon dont il le dit, bon, j'ai bien compris que c'était un petit peu la mode en ce moment. Les mecs sont chez eux et ont décidé. C'est pas que dans le foot, hein, y a plein de secteurs d'activité où t'as des artistes qui se parlent entre eux. T'as des mecs qui lisent des romans sur les réseaux sociaux. Enfin, t'as plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai vu un truc magnifique où différents membres d'un grand orchestre de Paris, chacun chez eux, se sont mis à jouer le Boléro de Ravel. C'est assez étonnant. Et on a dans le foot, donc voilà, Benzema qui pour la deuxième fois en une semaine parle avec des gens. L'autre fois, c'était Momo Eni. Là, je sais pas, j'ai oublié, c'était avec quelqu'un de précis là pour Giroud, je sais plus.
Ouais, c'était avec lui là.
C'était encore avec Momoigny ?
Ouais.
Ah bon, enfin peu importe avec qui. Bref, et il parle, il donne son avis. Il se trouve que dans cette culture des réseaux sociaux, la plupart des mecs qui parlent, effectivement, la forme, comme dit Pierre, elle est toujours un peu brutale. Si tu ajoutes à ça que la pop culture de Benzema, la culture dans laquelle lui il évolue, c'est un petit peu le chambrage, c'est un petit peu le fait de faire des hiérarchies, un peu une sorte de culture rap que lui adore.
Oui, là, il y a un côté trash talk, quoi. Comme
voilà,
NBA,
c'est ça.
Comme
que
dans
lui,
le rap.
Exactement, que lui il aime bien dire qu'un tel est plus fort qu'un tel et tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, tout le monde peut être choqué de tout et de rien. Moi, par exemple, là, j'ai pas été foncièrement choqué. Et peut-être que si c'est dit dans un autre domaine par un autre mec, ça va être choqué. On a du mal, Pierre, je m'adresse à toi directement, à être totalement cohérent, je trouve, en ce moment, face à cette déferlante des réseaux sociaux. On a du mal à être cohérent dans ce par quoi on est choqué aujourd'hui. Parfois, t'es choqué par un truc, le lendemain, pas par un autre truc et tout. Voilà, en fait, tu sais plus trop. Et comme tu dis, Gilbert, dans la boxe, quand Tyson Fury fait ses chambrages ou ses trash talk et tout, ça fait marrer tout le monde. Il l'assume. Là, quand Benzema dit ça, je trouve que c'est un peu dur par rapport à Giroud, parce que Giroud, c'est un mec. Mais en plus, attention, il faut être complètement complet. Dans la première version, il a quand même dit Benzema qui reconnaissait qu'il avait été utile à l'équipe de France, qu'il avait bien joué.
Il le redit
rapidement
aujourd'hui aussi. Hein.
Ouais. Donc, il faut être complètement honnête et dire que ça, il l'a ajouté. Après, que lui s'estime, comme dit Jérôme, qu'il s'estime supérieur à Giroud. Bah dis-le si t'as envie de le dire. De toute façon, personne va te contester. On sait tous que tu lui es supérieur. Donc il y a aucun problème là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il le respecte énormément. Bon, et après tout, je peux trouver ça malheureux, parce que moi je trouve que Giroud est éminemment respectable. Mais s'il le respecte pas, eh ben il le respecte pas. C'est tout. C'est son caractère, Benzema. En tout cas, il s'assume comme il est. Moi, ça me dérange pas foncièrement. Aujourd'hui, je crois qu'il faut, il faut se faire à cette nouvelle façon de communiquer. Je dis pas que je m'y fais facilement. J'essaye simplement de comprendre un petit peu comment ça marche. Moi, je trouve comme Pierre qu'il aurait pu dire, bah, j'estime que je suis supérieur, qu'il aurait pu enrober son propos. Mais ça a le mérite d'être cash, sincère. Bon, voilà. Je trouve que je suis même pas sûr qu'il faille aller plus loin dans la polémique. Moi, j'aime bien quand les mecs se disent
après,
des choses comme ça
après,
et tout.
Je précise, j'aime pas la forme, mais j'ai bien dormi hier soir et je vais bien dormir ce soir aussi. c'est pas ce qui va changer ma vie, effectivement.
On reçoit quand même énormément d'appels sur cette histoire, donc on va prendre quelques-uns d'entre vous au 32-16. Il y a Eric notamment qui nous attend, et beaucoup de mails, de SMS, également sur.
Donc les attitudes extrêmes, ceux qui s'offusquent à 100% et ceux qui le défendent à 100%, c'est toujours ça, moi, qui m'emmerde. Comme je disais hier soir, ce qui m'emmerde, moi, c'est que derrière ces propos-là, et d'ailleurs, Benzema, il fait un peu allusion à ça, et je le remercie pour ça, il a raison, quand il se corrige un peu, mais le problème, c'est que derrière ça, il y a cette fameuse opposition toujours qui revient pour les esprits simples et les esprits crétins, c'est l'opposition Giroud-Benzema et tout le communautarisme stupide que ça peut drainer derrière. Ça m'emmerde. Je pense pas que lui, il le fait exprès quand il fait ça. J'ai pas envie de croire qu'il fait ça, et d'ailleurs il se corrige à ce sujet, mais immédiatement derrière t'as eu plein, ça a provoqué plein de réactions de ce genre. Je crois qu'il s'est encore fait rentrer dans la gueule par Carteron. T'as évidemment tout son fan club communautaire qui a réagi, ouais, en force, machin. Bon, voilà, le problème c'est que ça provoque des réactions extrêmes qui sont stupides, et nous on est un peu au milieu avec tout ça, et bon, et on a trouvé que c'est pas complètement grave non plus, quoi.
Les réactions au 32-16 dans quelques instants et sur Direct Studio, et puis ensuite on reparlera du match d'il y a 10 ans, Lyon-Bordeaux en Ligue des Champions, et puis le quiz évidemment aux alentours de 23h40. À tout de suite pour la deuxième heure de l'after.
Oh là, il a une belle patte gauche.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.